Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs de FM+. Bonsoir. Il est 21h. Nous sommes le jeudi 7 novembre, un truc comme ça. En tout cas, il est 21h. Voilà, ça c'est sûr. Et nous sommes en direct depuis les studios de FM+, avec ma copine Céline. Ah, Céline. Alors, Céline et moi, on a couvert le Cinémed, le 46e festival du film méditerranéen qui s'est déroulé à Montpellier entre le 18 et le 26 octobre. Et on a vu pas mal de films avec Céline, on va vous en parler. Donc, 184 séances en 8 jours. Tout un tas de trucs super, donc un focus sur Reda Kateb, le cinéma de Reda Kateb, un focus sur Alba Rohrwacher, un énorme focus sur Luigi Comencini, des projections de cours, en veux-tu, en voilà, magnifique, et ce sera un peu le sujet, ce sera carrément le sujet d'ailleurs de Céline tout à l'heure. Il y avait aussi le jeune cinéma marocain, des documentaires fabuleux, des documentaires extraordinaires, des courts-métrages, donc je l'ai déjà dit, mais des moyens-métrages aussi, pas mal du tout. Et puis le cinéma dans le coin, dans l'Occitanie. La paillade qui était mise à l'honneur par Laure Pradel avec deux documentaires sur la tour d'Assas, voilà, un en 2009 et là, qui a été tourné un peu à l'arrache. Alors, quand même, on se présente, Céline Courteau-Capelier, donc je te laisse te présenter Céline, on t'écoute.
Bonsoir, merci Pascal pour l'invitation de venir partager cette émission avec toi. Pourquoi le Cinémed avec toi? Parce qu'on parle cinéma depuis qu'on se connaît. Ça a même commencé à Scrupule en 2020 quand je t'ai proposé de faire un projet dans les lieux de la librairie concernant des courts-métrages projetés. Et donc j'ai lancé à ce moment-là mon Ciné-Club Flub qui tourne toujours et qui est nomade et qui propose des séances un peu partout dans Montpellier et au-delà. Maintenant aussi en pellicule 16 mm. Voilà, donc ça c'est un de mes pans et qui fait le lien avec toi. Et l'autre, c'est aussi que je fais de l'éducation à l'image auprès de plusieurs publics, dont les scolaires, dans des dispositifs comme collège et cinéma, et maintenant lycée au cinéma. Je parle d'analyse filmique et je décortique le langage cinématographique. Voilà, donc ce soir, parler de court-métrage, ça va être un plaisir.
Ouais, et puis en plus, le Cinémed, extrêmement vertueux hein, vis-à-vis du court-métrage. Vraiment, c'est grand, on en parlera tout à l'heure. Donc on va parler, de la soirée d'ouverture, et puis on parlera donc aussi de Alba Rohrwacher, et puis les moyens-métrages, donc les courts-métrages, et puis Comencini, peut-être aussi on parlera de quelques documentaires. C'est très clair qu'on ne peut pas parler de tout ce qu'on a vu en 8 jours. Moi, j'ai vu, je crois, 26 projections, dont des cours. Donc, les cours, c'est 4 ou 5 films d'affilée. C'est ma stock. Voilà. Alors, en ouverture, Francesca Comencini, la fille de Luigi, qui vient nous présenter donc un film.
Prima la vita.
Prima la vita, donc c'est une phrase de son père, hein, le cinéma, la vie d'abord et après le cinéma. Très très beau film, hein, Céline, sur l'enfance, hein, je trouve.
On la voit enfant, on la voit dans les tournages de Pinocchio, qui donne très envie d'aller le voir, c'est ce qu'on a fait derrière.
C'est ça, on a vu Pinocchio. Et voilà. Et puis c'était rigolo, c'est une soirée d'ouverture. Alors l'opéra Berlioz, 2000 places, complètement plein, avec des gosses sur la droite, enfin des gosses, des jeunes sur la droite qui étaient vraiment hyper contents d'être là, avec beaucoup de bruit, des derbouka, de la musique berbère. Puis ça montait, ça montait. Puis finalement, le lancement, une sorte de générique où tout le monde claque des mains et crie olé. Et ça, c'est le rituel avant chaque projection, c'est une spécialité. C'est pas toi, Céline, qui m'avait dit qu'ils avaient essayé de l'enlever et que les gens s'étaient plaints et qu'ils l'avaient remis.
Non, ce n'est pas moi, c'est
anecdote. C'est pas toi.
Non,
je sais pas qui m'a dit ça, mais en effet, ils avaient enlevé ce générique où les gens claquent des mains ensemble et lancent le film. Et donc, ils l'ont remis parce que les gens étaient vachement contents.
En tout cas, c'est toujours aussi impressionnant dans l'opéra Berlioz.
C'est ça. Voilà, et donc le festival commençait comme ça, avec ce film donc, de Francesca.
Qui a été invité à lancer ce 46e festival en direct.
Yes. Alors, parlons un peu de Alba Rohrwacher. Je ne vais pas faire
l'affiche
Wikipédia.
Ah oui, mais elle fait l'affiche.
C'est carrément l'affiche. Le film, c'était Tropa Gradia, je crois.
Exactement.
Oui, c'est ça. Moi, je vais vous parler d'un film. Il y a eu 13 films avec Alba Rohrwacher projetés dans les 8 jours. Moi, j'ai beaucoup aimé Vierge sous serment. C'était une production Albanie, France, Suisse, Allemagne, Italie et Kosovo. Ça se passe en Albanie. C'est l'histoire en Albanie, dans les montagnes des Danées, ça s'appelle comme ça. Il y a une jeune fille qui choisit de devenir une vierge sous serment. Ça veut dire qu'elle s'engage à demeurer célibataire, hein, mais en contrepartie, elle est autorisée à vivre comme un homme, à utiliser une arme à feu, mettre des vêtements masculins, faire de la musique, faire des travaux d'homme, boire de l'alcool, fumer, etc. Mais elle doit être un homme, c'est-à-dire ne pas avoir de vie sexuelle, on va dire. Et puis elle débarque en ville, comme ça, chez sa sœur, et la fille de sa sœur, qui est magnifique, c'est un comédien. Moi, je suis toujours bluffé par les enfants comédiens, qui sont toujours extraordinaires. Voilà, et donc elle débarque en ville, comme ça, une extraterrestre, hein, et elle va changer de vie. Elle est venue pour changer de vie, elle va changer de vie. Elle abandonne son vœu, et Alba Rohrwacher, dans ce rôle, est vraiment incroyable. Oui, les moyens-métrages. Alors, les moyens-métrages... j'ai vu un moyen-métrage qui s'appelle Upshot. En français, ça veut dire « ce qui vient après ». En fait, c'est une production palestinienne, italienne et française. Une réalisatrice s'appelle Mahaj, qui est née à Nazareth dans les années... en 1970. Et qui a commencé sa carrière dans le cinéma en tant que décoratrice. Et qui a fait un premier long métrage de fiction qui s'appelait Personal Affairs en 2016, qui avait été présenté à Cannes dans Un certain regard, et qui avait remporté le prix de la critique au cinéma en 2016. Ce film est porté par un immense comédien palestinien qui s'appelle Mohamed Bakri, et aussi une comédienne qui s'appelle Harine Omari et Amer Elel. En fait, il y a 3 personnages dans ce film. Donc Mohamed Bakri, qui joue avec Harine Omari, un vieux couple. Hein. Il est vieux maintenant, Mohamed Bakri, c'était une star du cinéma arabe. C'était un homme magnifique avec un regard bleu extraordinaire. C'était vraiment le Alain Delon en mieux. Ils cultivent une oliveraie quelque part, on ne sait pas où. Une jolie oliveraie avec des jolies couleurs. C'est un film aussi qui a des tons pastels. On voit un peu comme une image de Folon. C'est assez étrange, c'est vraiment beau. Et donc, ils ont cette oliveraie, ils s'en occupent. Voilà. Bon, une oliveraie, ce n'est pas trop la peine de s'en occuper avant de cueillir les fruits. Mais bon. Et donc, ils se retrouvent dans la maison, etc. Ils parlent de leurs enfants. Tiens, tel enfant a envoyé un mail, tel autre a appelé, rappellera. Et puis, ils s'envoient un peu des piques. C'est un vieux couple, ils se connaissent bien. Ils savent ça un peu agacer l'autre. Mais c'est bien, ça met un peu de piment, etc. Et donc le film commence comme ça, c'est très beau, c'est très humain, c'est vraiment chouette. Et arrive un type qui est journaliste et qui vient enquêter parce que ces deux personnes ont perdu toute leur famille dans un bombardement à Gaza. À Gaza ou ailleurs, hein, c'est pas dit d'ailleurs. Ça peut être, vous savez où. Bon, et en fait, on se rend compte que ce couple met en scène les absents, et ne supportent pas de la réalité insupportable. Ils ont perdu tous leurs enfants, les 5. Et c'est un film vraiment extraordinaire parce que 3 comédiens, des paysages, mais un paysage, un lieu, et puis voilà, c'est vraiment, vraiment un film très bouleversant et en même temps pas du tout dans la plainte, juste dans le deuil, la réalité de ces douleurs, voilà, de ça. Voilà, je voulais vous parler de ce film.
Rappelle-nous le titre.
Alors, Upshot. Upshot, c'est un film qui va sortir. Je sais pas comment sont... tu sais comment sont projetés les moyens métrages au cinéma? Non, tu sais pas.
Alors, c'est probablement plus facile en sur festival. Ou sur Arte.
Ouais. Ou dans les festivals, ouais, c'est ça. C'est
ou
ça.
Dans une... dans une programmation dédiée où peut y en avoir plusieurs.
Ouais. Regroupés. Mais il y a pas mal de festivals un peu partout. Hein. Le Cinémètre s'en est un peu balèze d'ailleurs, grâce au Quorum, avec les trois salles du Quorum. Oui, c'est vrai, ils feront parler de ça, les salles de projection.
Il y a celles qui sont dans le Quorum,
donc
que
Pasteur, Einstein et Berlioz.
Il y a le Centre Rabelais. Aussi, voilà, qui est une salle de la ville.
Sur l'Esplanade, un ancien cinéma, Pathé Macroni.
Et après, il y a les trois cinémas de Montpellier, enfin, il y en a plus que ça, mais en tout cas, il y a l'Utopia, au FAC, le Diagonal, qui est en centre-ville, et Nestor Burma, qui se trouve à Celle-Neuve. Voilà.
Il y a une autre salle qui s'appelle Louis Feuillade à la Paillade, et qui est toujours bizarrement éteinte, alors que... c'est sur le jeu de maille, là, en plein milieu de la Paillade. C'est une belle salle, hein. C'est une ancienne salle diagonale.
Une maison pour tous. Oui. Ouais.
Bon.
Elle est bien.
Elle est très bien, j'ai vu des films, elle est très très bien, c'est vrai. Alors, je propose d'envoyer une musique qui est en fait le teaser de ce 46e festival.
Qui nous présentait tous les films, une sélection de films, un montage qui présentait les films qui étaient dans le festival.
C'est ça. Allez, ça donne ça. Voilà, alors moi, je trouve que ça donne une bonne version de l'énergie qu'il y a au cinéma, de ces films qu'on voit les uns après les autres et tout. Cette musique, elle me fait un peu penser à cette enfilade comme ça, cette nervosité, mais bonne nervosité qui nous a tenus d'un bout à l'autre.
Voilà. Qui tient les festivaliers aussi.
Et qui tient les festivaliers, oui, on a une copine qui s'appelle Kéra, qui a vu encore plus de films que moi, et j'avais rencontré un gars qui s'appelait Pierre-Yves, hein, et puis un autre qui s'appelait Frédéric, comme ça, on ne se connaît pas, puis on se rencontre.
C'est le lieu des rencontres.
Et puis, c'est Montpellier, on se voit, tout ça, on fait la queue ensemble, on va voir un film avec eux. On fait un petit commentaire.
Sur la fin, dans le début du film.
Voilà, on a aimé, on n'a pas aimé. Oui, mais c'était une fable.
Ouais, ça me rappelle un film.
Oui, voilà, c'est ça, c'était bien. Ouais, c'est chouette, tout le monde est là. Ouais. Bon, alors Céline, c'est à toi de nous éclairer sur les courts-métrages et il y a de quoi faire.
Bon, je vais d'abord présenter rapidement les courts-métrages du Cinémède, Du coup, il y en a 46, enfin si je ne me trompe pas, il y en a 30 en compétition, dont la section Panorama, qui est un format particulier. Donc voilà, je vais revenir dessus. Ensuite, il y a aussi des séances spéciales dans lesquelles il y avait la séance spéciale Regard Occitanie, où il y avait 5 courts-métrages, qui sont des réalisateurs et des réalisatrices qui posent un regard ou qui tournent en Occitanie. On avait une carte blanche aussi par Arte. Donc ça, je vous en reparlerai parce que c'est l'occasion de voir en ligne des films qu'on a pu nous vous regarder au Cinémed. Il y a aussi dans les séances spéciales, il y a Talent en cours, alors qu'il y a un dispositif qui était à sa 9e édition, qui est initié par l'association des amis du Comedy Club, pardon, et de Ciné Banlieue. Donc il y a un dispositif qui soutient des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont des parcours particuliers. Et donc il y avait dans ce cadre-là aussi un court-métrage qui s'appelle La Montagne de Violette. La Montagne de Violette Delmas, pardon, qui a été soutenue, elle, en 2023 avec ce dispositif. Et bien sûr, un petit dernier aussi qui s'est glissé, qui n'a pas été trop mis en avant, mais qui a été glissé en avant-première de Pain, Amour et Fantaisie de Luigi Comencini, qui s'appelle Il Museo di Sogni, qui a été fait par lui-même en 49 et qui nous parle des films qui se font pilonner, détruire, et encore aujourd'hui, mais en tout cas à son époque. Je t'invite, Pascal, à passer cette petite capsule sonore qui est un extrait de la conférence de presse de Christophe Leparc qui présente la section court-métrage, quelques bribes de l'entretien avec Mathilde Guiton-Marcon qui présente aussi la section court-métrage et le travail qu'elle y mène. Voilà.
Yeah, je vais essayer d'envoyer ça.
Formidable, je ne sais pas si c'est le mot, mais incroyable. Mathilde Guiton-Marcon, qui est responsable des documentaires et qui a fait la sélection avec Charlie Jardin et moi, a reçu plus de 900 courts-métrages et on en a sélectionné 30. Voilà, donc c'est pour vous dire que le court-métrage est vraiment le vivier dans lequel Cinémed trouve les futurs grands auteurs.
Pour construire l'ensemble des programmes de courts-métrages, donc moyens-métrages et courts confondus, on a vu près de 1000 films cette année. Construire l'ensemble, donc ça fait au final une cinquantaine de courts sur l'ensemble. On ouvre l'appel à films en avril, mais on commence vraiment à visionner à partir de juin, parce qu'il y a d'abord une longue période de prospection. Il y a un travail d'essayer de à la fois voir ce qu'on reçoit, et nous aller chercher des films, être en contact avec différents interlocuteurs dans les différents pays, pour plus avec d'autres festivals, avec des ateliers, des formations, des écoles.
Oui, et à Charlie aussi, ou
c'est moi qui m'en charge. Et après, quand on a toute notre somme de films, c'est là qu'on se lance tous les deux dans les visionnages. Suffisamment de matière de tous les pays pour pouvoir faire des choix et avoir du choix, en tout cas. Une diversité de formats, d'approches, que ce soit du documentaire, des formes plus expérimentales, des formes de fiction classique, de l'animation. Mm-hmm. Donc d'essayer d'être aussi assez représentatif des créations. Mm-hmm. Voilà, parce que c'est aussi important et que ça crée aussi par soi-même des espaces. Enfin, en tout cas, un rapport aux espèces qui est particulier.
Tu t'attaches à ce qu'il y ait un maximum de pays représentés ?
Oui, bah, c'est notre chance aussi au court-métrage, c'est d'avoir la possibilité de montrer plus de films en compétition fiction ou documentaire. Du coup, l'idée, c'est en effet d'être le plus exhaustif possible, en tout cas de couvrir le plus de pays. Mais après, on ne s'oblige pas non plus à montrer... l'idée, c'est quand même toujours de garder la qualité comme boussole. Mais voilà, on essaye en tout cas de considérer au moins un film de chaque pays quand c'est possible, parce qu'il y a aussi des pays dont on ne reçoit pas de film, des différents contextes politiques.
Voilà.
Yeah, c'était chouette. Hein.
Petit montage voilà, sur un temps d'entretien un peu plus long, mais je trouvais que ça introduisait bien notre petit passage. Et alors je vais commencer par parler des courts-métrages qui étaient présents dans la sélection L'Audace du jeune cinéma marocain. Il y avait 6 films courts, donc dont un fait par un réalisateur et 5 faits par des réalisatrices. Et il y avait à l'honneur le travail de Sofia El-Khiari, qui présentait ses cours d'études et son dernier court-métrage qui s'appelle L'ombre des papillons, qui est sorti en 2022. Et elle proposait aussi une exposition en lien avec ce film, mais aussi les autres, les précédents. Et donc elle montrait des éléments d'études, d'animation, et qui faisait ressortir bien sûr son travail de matière. Alors son travail à elle est assez particulier, donc c'était un peu de l'ordre de l'éducation aux images, ce petit programme qui avait été préparé, parce qu'on voit se dérouler ses travaux d'études, et des films primés aussi, donc il y en a 4. Et on sent venir une intention plastique. On entend sa voix qui se pose, mais qui n'est pas encore posée. Et on a juste envie que toutes ces bribes de matière, cet effeuillage d'imaginaire qu'elle propose, cette discussion qu'elle entretient avec le féminin, la place qu'elle donne aux femmes, on a envie que ça éclot. Et, jolie chose, l'ombre des papillons et cette éclosion. La voix est très bien menée, très bien posée, le langage est original, c'est en VOST, donc en marocain, et elle utilise une de ses pratiques d'animation liées à la matière, et c'est très intéressant. Alors malheureusement, on ne peut pas le voir, je ne sais pas où on pourra le voir, mais il doit tourner parce qu'il est de 2022. Donc c'est l'ombre des papillons, c'est un 9 minutes. Et cette jeune femme, elle est diplômée d'un master du Collège Royal de Londres d'art, et donc on sent dans sa façon de traiter l'animation un caractère vraiment plastique, et ça embarque, ça ouvre l'imaginaire, c'est très beau. Voilà donc Sofia El Khiari à suivre et qui a déjà été pas mal primée. Donc ça, c'était une belle découverte grâce à ce focus sur le jeune cinéma marocain. Et il y a aussi du long, mais on en parlera tout à l'heure. Quoi d'autre? La compétition, du coup, de court-métrage. Donc 30 films en compétition, dont 19 dans une programmation de cours et 12 qui apparaissaient en panorama. On a des primés. Donc il y a la liste des prix, il y a Vibration of Gaza, The Watchmen et Mayonnaise qui ont reçu des prix, je vous les donnerai tout à l'heure. Et est-ce que tu pourrais nous mettre un petit extrait de la BO de Mayonnaise, s'il te plaît?
Avec plaisir, j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu en cours. Alors, Mayonnaise, où es-tu ? Voilà, Mayonnaise, la BO.
De Giulia Grantinetti, qui récupère le prix Canal+. Donc voilà, on est contente pour elle. C'est un très bon film que tu as, court-métrage de 20 minutes. Et est-ce que tu veux nous en dire un mot? Parce qu'on était ensemble pour la voir.
Raconte un peu l'histoire. Ça se passe.
C'est Elyria qui est un peu sous le joug de son père.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Voilà, et dans un cadre familial très patriarcal.
Elle se révolte.
Et en fait, elle commence à se révolter tout doucement. Elle entretient une relation avec un jeune Serbe. Et petit à petit, on la voit qui défie l'autorité par des crachats, par exemple. Et son père décide de la...
Ah oui, crache dans la soupe. Ah oui, c'est dingue ça. Ouais, c'était génial.
Et donc tout le film est en noir et blanc et assez rythmé. Cette jeune bergère est très belle. Je ne vais pas raconter l'histoire. C'est
son... Ben ouais, vous la verrez sans doute.
Voilà, j'espère que vous le verrez. Il a été primé quand même. Et bah, ça traite d'un féminin, d'une jeune femme qui se rebelle et qui va à l'encontre de toutes les attentes même et du public et de son père et de son petit ami. Je vous laisserai découvrir parce que c'est assez sympa.
En tout cas, la scène du crachat dans la soupe, elle est waouh.
Et puis c'est un crachat familial.
Oui, c'est ça.
Tout le monde crache dans sa soupe.
Oui, c'est ça. Et Vibration of Gaza, j'ai beaucoup aimé aussi ce film avec ces enfants sourds, mais qui du coup n'entendent pas les drones qui passent dans le
ou
ciel.
Ou entendent les vibrations du drone.
Ah, peut-être, voilà, c'est ça, les vibrations.
Certains l'entendent, certains ne l'entendent pas.
C'est ça. Puis c'est les explosions, tout ça.
C'est une très belle surprise. Enfin, surprise, je ne sais pas, mais c'est une. Des belles nominations. Il a été nominé, donc primé deux fois, le prix du public de la Gazette Tétrafilm et le jeune public Ville de Montpellier. C'est touchant, c'est le langage des signes, ça se passe à Gaza et c'est aussi. Ça nous parle des conditions actuelles des enfants à Gaza et ça nous rappelle d'une façon. Différentes, qu'il faut garder un œil sur ce qui se passe là-bas.
Mais je crois que ces enfants, en plus, pas tous, mais en fait, ont perdu l'ouïe dans les explosions.
Alors, par les explosions, mais pas aussi par les surveillances constantes des drones qui émettent des vibrations. Donc, c'est tout un contexte
Ouais,
qui a créé leur sourdité.
C'est ça. Bon, on continue,
oui.
Malgré tout.
Alors, les enfants, ils sont très présents, on en parlait tout à l'heure. Je balbutiais un peu parce qu'il fallait que je fasse du remplissage, mais du coup, il y avait quand même des enfants d'un peu partout. Il y a Adieu Tortue sur les plateaux de la mer Noire. On a Fatmé, que j'ai beaucoup aimé, qui est une jeune fille syrienne qui est curieuse, courageuse, qui a un tempérament de feu et dont la famille s'inquiète qu'elle ne soit pas trop un garçon. Et finalement, le médecin de famille rétorque non, juste elle est curieuse, courageuse, laissez-la être comme elle veut. Donc on est en Syrie, la petite fille Fatmé a 11 ans et elle grimpe aux arbres pour manger les fruits. Ça nous rappelle peut-être tous des choses. Et elle n'aime pas qu'on lui démêle les cheveux. Bref.
Ah, mais non, mais c'est-à-dire que ça lui fait mal. Hein. Elle tire la maman derrière.
Il n'y a pas trop de douceur, donc voilà.
Mais elle est géniale, cet enfant. C'est pas une comédienne, hein. C'est vraiment Fatmé. C'est Fatmé, quoi.
Oui, c'est ça. Il y a Mori aussi, de Yakup Tekintenga, turc, qui est une jeune enfant qui n'a plus de nouvelles de son père et qui prend l'instituteur pour peut-être son père qui est parti.
Ah oui, ça aussi. Un film turc magnifique.
Très beau. Voilà, donc l'enfance.
C'est une petite fille kurde, hein, avec un professeur turc qui est censé leur apprendre le turc.
Exactement.
Et en fait, ils ne comprennent pas trop. Hein. Et c'est vrai que cette jeune fille...
Il y a la compréhension des langages.
Puis il a l'air chouette, l'instituteur. Et, donc voilà, beau film en effet.
Et il essaie de ne pas s'y attacher.
Et ouais.
Donc, quoi dire ? Alors, sur les courts-métrages de la compétition, donc on a tous ces courts-métrages, donc ces deux, et on a The Watchman, qui a été aussi primé, grand prix du court-métrage de Montpellier Méditerranée Métropole, qui a financé, ainsi que Force de l'Image Production, qui ont donné donc ce prix. Watchman, c'est... l'histoire d'une sentinelle sur une frontière. Elle est turco-chyprienne, cette frontière, et elle parle un peu de toutes les frontières que l'on peut...
Cette frontière a une particularité, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est rien passé entre les deux côtés de la frontière depuis plus de presque 30 ans. Et il faut quand même continuer à surveiller. Et donc, en effet, il y a un soldat qui est en poste. Et tu te souviens,
sur le mirador,
il y a marqué « Soldat, réveille-toi et regarde ». Et moi, j'imaginais en effet qu'un soldat, il faudrait quand même qu'il regarde.
Et de l'intérieur, on le voyait marquer le nombre d'oiseaux qui avaient... qui avait rendu l'âme en se cognant contre la vitre.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça
aussi. C'est un peu des,
Et puis, enfin, moi, j'ai reçu ce film en me disant que il y en a partout, quoi, des miradors avec des soldats qui regardent pour rien comme ça.
Du coup, c'est assez universel.
Ouais, le regard magnifique de ce soldat-là, et son regard bleu, bizarre, un bleu gris, un bleu étrange. C'est un beau film, c'est vrai.
Donc, The Watchmen de Ali Sheri. Alors, sinon, sur les courts-métrages, donc c'est, ben, je ne vais pas m'étendre au-delà de la compétition. Ce que j'ai noté, moi, c'est un petit peu pour faire un rebond, c'est qu'il y avait quand même de l'animation de présente dans cette compétition. On a deux courts-métrages, dont un de Gianluigi Toccafondo, qui est un réalisateur d'animation italien qui est plutôt confirmé, même beaucoup, qui propose La Voix des Sirènes. Et donc ça, ça fait partie des courts-métrages qu'on peut retrouver sur Arte. Est-ce que tu nous ferais bien une petite...
C'est possible.
Une petite virgule possible. Sonore.
C'est parce que je t'aime bien.
Allez. Des fonds marins entre les rochers et les coraux, des algues primitives ondulent. Au-delà, à la surface de l'eau, quelque chose d'extraordinaire vient d'apparaître, une voix. Alors là, dans ce court-métrage, il nous parle du féminin et de l'évolution aussi des femmes. C'est assez présent dans beaucoup de films de la compétition et j'en ai relevé quelques-uns qui m'ont beaucoup plu, comme Abricot sec. Abricot grec, pardon, de viande de crévatin.
Bon, ouais, bon,
j'ai peut-être parce que j'ai un peu faim, qui sait.
Bon, on va manger tout à l'heure.
Voilà, donc, et croate, slovène, et qui parle d'émancipation. Enfin, c'est vraiment la proposition d'un récit où on montre la femme un peu plus émancipée. C'est une femme chauffeuse de poids lourd qui est libre dans sa sexualité. Et je trouve ça... touchant. Voilà, il y a aussi C'est les Balkans, baby, de Boris Grilovic. Alors du coup, c'est un film d'études dont voilà, c'est l'histoire de deux femmes exilées en Allemagne et qui se reconnaissent par leur langage.
Ils sont au bord d'un lac en Bavière.
C'est ça.
La dans Bavière, une
voilà, exactement.
La Bavière, c'est la Bavière.
C'est ça. Et c'est une... C'est très
c'est la rencontre de deux femmes de deux générations,
tout à fait.
Une plutôt 20 ans et l'autre plutôt 50 ans.
Voilà.
Toutes les deux serbes.
Exactement. Et qui parlent cette langue des Balkans, mais qui peut être yougoslave, serbe, croate ou autre.
Ouais, des langues cousines. Hein.
Voilà, c'est ça, exactement.
Mmh. Et voilà. Et donc c'est magnifique. Hein. J'ai adoré ce film.
Exactement.
J'ai adoré. C'est vraiment super.
Alors sinon,
avec une musique géniale qu'on n'a pas retrouvée.
Ah mais non, bon. Tu parles de Cher Louise.
Ah, c'est Cher Louise. Ah oui, tu as raison, c'est Cher Louise.
De Catherine Cassini, mais on n'a pas retrouvé la musique.
Ah ouais, impossible.
Sinon, voulez-vous la mettre?
Mais dans Laissez les Balkans, bébé, il y a aussi une musique à un moment, quand elles font la fête dans l'hôtel, là, qui a une musique aussi qui était pas mal.
Qui est une musique pop ouais, des Balkans et que le réalisateur a choisi exprès, justement... pour être dans le
vent,
dans l'ambiance justement de ces femmes exilées.
Ah oui, voilà, c'est
ça. Et puis surtout parce que la musique a beaucoup d'importance dans son court-métrage et qui est propre à la culture de ces régions qui aiment danser et faire la fête. C'est ce qu'elles font d'ailleurs dans ce court-métrage.
Ah ouais. Et puis on sent que celle qui a plutôt mon âge, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait la fête. Elle ne sait même plus comment c'est en fait. Et cette jeune, ben, elle la réveille quelque part.
Elle l'invite à commencer, à recommencer.
Exactement.
Exactement. Donc voilà. Donc
c'est un peu ça le cinéma, hein, ça nous invite à recommencer aussi.
Et à danser aussi.
Et à danser en sortant des salles.
C'est ça. Donc voilà, donc on a aussi en court-métrage Arte qui avait une carte blanche, comme tous les ans. Et donc grâce à ça, on découvre des films qui sont coproduits, soit avant sur scénario, soit une fois que le film est réalisé. Et donc on peut les retrouver sur Arte. Ça, c'est une bonne chose. En partie, sur les 5 qu'il y avait, on peut en retrouver 2, qui sont Une orange de Jaffa, de Mohamed Al-Mougnani. Donc ça, vous pourrez le trouver. On va essayer de mettre le lien sur... c'est sur quoi qu'on met le podcast ?
Sur le site.
Hein. Voilà, sur le site. Sinon, vous cherchez sur Arte Court. On a Le Papillon de Florence Mialet qui sort... un nouveau court-métrage, donc c'est la réalisatrice de Traversée, qui est sortie il y a 2 ans, et qui est inspirée de la vie d'Alfred Nakache, qui est surnommé Artem, le poisson, qui a été un nageur déporté, qu'on appelait aussi le nageur d'Auschwitz. Pardon, excusez-moi. C'est une très belle réalisation, et c'est de la peinture... c'est de la peinture qui s'anime, voilà, comme Giacofondo qui utilise aussi Toccafondo, pardon, qui utilise aussi la peinture, mais qui peint plutôt image par image.
Ah ouais, mais ça c'est ton rayon, ça.
Eh oui.
Tu pratiques ça avec les enfants, je crois, ou les collèges.
Oui, et moi-même, je pratique aussi.
Et toi-même,
aussi,
tu pratiques. Hein, mais peut-être on peut expliquer le principe.
Alors du coup, sur avec La Voix des Sirènes de Gianluigi Toccafondo. Alors, il filme certaines parties et ensuite, il déploie la partie filmée image par image et il repeint dessus.
Mmh. Moi, je l'ai vu, c'est magnifique ce film.
Voilà, et du coup, il y a toujours ce côté un peu fluide qui fond, qui se transforme. Il joue beaucoup de la transformation. Alors que Florence Mialet, elle travaille par touche sur plaque de verre. Avec plusieurs plaques de verre les unes sur les autres, celles qui font le décor, celles qui font les personnes animées. Et c'est des photographies qu'elle fait de chaque coup de pinceau qui vont, mis en animation, créer le mouvement.
Mais ça, dans le court-métrage, c'est arrivé très très tôt, hein, dans l'histoire du film, cette peinture sur pellicule, je crois.
Alors, peinture sur pellicule, oui, mais... peinture animée, c'est encore autre chose parce qu'on est sur raison. Du banc-titre ou sur. C'est-à-dire que c'est de la photographie en direct. Mais ça tient de la même chose. Sauf qu'on ne peint pas sur le support déjà filmé, ce qui pourrait être un peu le cas de Gianluigi Toccafondo, mais je ne suis pas sûr qu'il travaille sur du 35 mm.
Mais techniquement, c'est possible de prendre un film vierge et de peindre dessus.
Oui, tout à fait. Il faut que ce soit un film pellicule.
Oui, c'est ça. Ah, oui. Bon, c'est cool. Hein. Ben oui, c'est sympa, le mercredi avec les enfants, le mercredi après-midi.
Oui, bah d'ailleurs, j'ai fait un atelier à la médiathèque Émile Zola avec des enfants et des adultes sur ce sujet.
Et ouais, c'est chouette.
Avec des gens comme Norman McLaren ou Pierre Piru, qui sont des réalisateurs qui ont peint ou gratté sur la pellicule.
Et gratté, oui, c'est ça aussi, on peut gratter. C'est chouette. Hein.
Et ben voilà, et ben je vais... Il y a les panoramas dans lesquels il y avait aussi 2 animés, alors je ne vais pas les louper, mais surtout il y avait aussi la Palme d'Or des courts-métrages de cette année qui s'appelle L'homme qui ne se taisait pas, qui est un film qui se déroule en 93 en Bosnie-Herzégovine et c'est un train qui s'arrête avec plein de passagers et tout le monde se demande pourquoi et il y a contrôle de papier.
Ah, je l'ai vu aussi.
Le titre s'appelle « L'homme qui ne se taisait pas ». Donc, je vous laisse découvrir. Il est sur Arte. Vous pourrez le trouver.
Eh oui. D'ailleurs, Arte égale court-métrage. Hein. Mais il n'y a pas que, j'espère, sur les portails gratuits, accès gratuit.
Alors, c'est gratuit. Après, il y a des courts-métrages sur d'autres plateformes. Documentaire Tank.
Mais ça, il faut s'abonner.
Oui. Non, oui. Pour Tank, oui.
Oui, d'accord.
Donc, « L'homme qui ne se taisait pas » de Nebojša Slijepčević, voilà, que vous pourrez retrouver et voir surtout. Et il y avait 2 autres dans la sélection numéro 1 du panorama, enfin le panorama numéro 1. Il y avait un film assez surprenant qui s'appelle « Catland », Slovénie-Croatie de Anna Sijon, 2024, qui parle de chats et qui est une satire qui relève des enjeux politiques actuels en Europe. Et c'est bien vu. C'est assez étonnant, l'image est assez étonnante et le sujet est pas mal mené. Voilà, donc ça aussi, j'espère que vous pourrez le croiser quelque part dans Catland. Voilà, il y aurait tant de choses à dire sur tous ces courts-métrages. Et j'ai pas parlé de la carte blanche, enfin de la carte blanche donnée au film du Grec, tourné en Occitanie, parce que j'en ai vu aucun, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'y ferai attention la prochaine fois. Et sinon, juste deux dernières choses. Les 6 virgules d'Artefix, qui sont pas des courts-métrages, mais qui sont même des extra-courts ou même des virgules, ils les ont appelés, qui précédaient toutes les projections avec des petites blagues. Voilà, c'est une école d'animation et d'effets spéciaux qu'il y a à Montpellier. Et pour plein de programmes, c'était soutenu par Occitanie Film, la région et aussi la métropole de Montpellier qui soutiennent la création en Occitanie. Et il y en a beaucoup et c'est très bien. Et d'ailleurs, il y en a un qui était très intéressant dans Regard en Occitanie, qui était un film qui a été créé à partir de l'IA. Et c'est impressionnant la sensation visuelle que ça apporte que de regarder ces images mises dans un procédé génératif. Et du coup, il n'y avait pas la réalisatrice. Du coup, je ne sais pas comment il a été réalisé.
Elle n'existe pas.
Peut-être. En tout cas, je sais que les sources sonores ont été prises d'enregistrements téléphoniques et donc ont été traitées de cette manière. J'essaie de retrouver son nom.
Alors, attendez. En tout cas, pendant que tu cherches, ouais. Moi, je peux dire qu'à Montpellier aussi, il y a Kino. Kino, c'est une association de gens tout qui font leurs propres films. La prochaine projection, ce sera le lundi 18 novembre à 19h30 à la salle Rabelais, donc sur l'esplanade, l'ancien pâté. Voilà. Allez-y, c'est chouette, moi j'y serai. Céline, tu as retrouvé ton truc.
Oui, c'est The Oasis des Serbes et c'est Inès Siul. Voilà, et ça parle de réplicas, de robots conversationnels. C'est très troublant et je crois que c'est un des premiers, enfin en tout cas de toute la sélection du cinéma, c'était un des visiblement utilisant l'IA.
Yes, étrange. Voilà.
Et donc du coup, je vais faire une enjambée et je vais te tendre le bâton. Je vais passer de l'IA à un film de 1949 qui est celui fait par Comencini, qui a précédé les projections de Pain, Amour et Fantaisie à Berlioz et qui s'appelle El Museo des Sogni et qui parle des films détruits
voilà. Par les nazis.
Non, les pas que, pas que, aussi par les grandes firmes qui ne voulaient pas que les copies tournent. Et donc Francesca Comencini en parle un peu, fait un clin d'œil dans son film. Et Comencini a participé à travers sa passion pour le cinéma et sa collection de films en pellicule à l'aventure de la création de la Cinémathèque privée de Milan. Oui. Voilà.
Il y a Henri Talva, qui est le directeur d'honneur, le président d'honneur du festival, parle de Académie Comencini, dit. Voilà.
Exactement.
Dire aussi quand même, avant de passer à Comencini, que les cours, c'est quand même le pied pour rentrer dans le long. Faire des cours, c'est aussi... et les montrer en festival, avoir des prix, ça permet aussi d'aller après avoir des productions, tout ça.
Et oui, et comme disait Christophe Leparc dans la présentation de la conférence de presse, c'est qu'il y a aussi des personnes qui sont déjà assises dans leur création et qui reviennent au court-métrage. Et donc, il y en avait quelques-uns qu'on a découverts, Toca Fondo, qui a déjà fait du long-métrage.
Moi, j'adorerais qu'on revienne aussi au muet, ce serait génial. C'est tellement bien avec des musiques, tu vois. Live.
Mais il y en avait un de non sonore.
Ah.
Enfin non, où il n'y a pas de voix.
Ah. En tout cas, toi, tes ciné-club Flup, c'est un peu ça aussi, parce que tu projettes donc de la bobine, d'abord avec le son, ça c'est le ciné-club, hein. Mm-hmm. Puis après on fait une pause et on passe au Flup, c'est-à-dire que de nouveau c'est des projections, mais sans le son, et c'est le public hein, qui est là et qui fait les voix, les bruits, avec des instruments de musique, des tam-tams, tout ça.
Voilà, c'est très intéressant, et depuis l'année dernière... Juste avant les vacances de Noël, il y a le Jam qui invite le Ciné-Club Flub. Et là, c'est de nouveau le cas le 12 décembre. Et en général, c'est accueilli avec la batterie, le piano, les instruments, les micros ouverts, plus les étudiants du Jam qui viennent avec leurs instruments. C'est assez intéressant.
Yes, bah j'y suis allé moi l'année dernière, je crois que j'étais là avec ma flûte. Hein.
Exactement.
Allez, on va écouter un peu de musique, la bande originale du film La Ragazza di Bube. Ça va faire un truc comme ça. Là. Donc, Comencini, quel homme. Alors, il naît, ses parents, enfin, son père vient bosser en France, comme pas mal d'Italiens, du coup, dans le Lot et Garonne. C'est donc en France que va grandir le petit Luigi Comencini. Puis finalement, il va partir en Italie, c'est l'Italie fasciste, faire des études d'architecte. C'est très utile d'apprendre l'architecture, l'ingénierie pour faire des films. C'est compliqué un film, ça s'organise, tout ça. C'est pas mal de passer par ce genre de formation. Du coup, c'est le fasciste. Les étudiants sont obligés d'adhérer. Luigi adhère, etc. En 1953, c'est son premier succès avec Pain, Amour et Fantaisie. C'est là-dessus que tu voulais... Non. En tout cas, oui, au Cinémed, il y a eu deux projections de 35.
Mais dans Pain, Amour et Fantaisie, le petit clin d'œil, c'est pour ça que tu m'as regardé du
coin
de l'œil.
Ça, oui.
C'est qu'en fait, il y a une scène avec quelqu'un assis sur un muret avec une baguette de pain coupée en deux avec rien dedans. Et puis, il y a une guardia civile qui passe et qui lui dit... Et il y a une réplique autour de la fantaisie qu'il y a dans sa baguette. Et on va retrouver exactement la même scène dans Pinocchio. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil quoi, que je voyais de loin.
Voilà. Alors, on a pas assez de temps pour vraiment s'étendre. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc, on va faire focus sur deux films. Alors, bon, La Ragazza. Alors, Comencini a traité l'histoire de l'Italie fasciste avec le moment où l'amnistie est signée avec les Alliés. Et du jour au lendemain, les Allemands deviennent les ennemis des Italiens, etc. Il a traité ça. dont un film magnifique avec Serge Reggiani. Et puis aussi ben, La Résistance, avec des crimes de guerre qui n'ont pas été amnistiés après la guerre. Et donc des gens ben, qui sont partis faire de longues années de prison pour des faits de guerre. Voilà, ben, La Résistance, c'est pas gentil. Voilà, alors après, on peut parler aussi en 1966 de L'Incompris. Ça, c'est vraiment un film admirable.
On l'a vu tous les deux.
On l'a vu tous les deux. C'est un film magnifique, d'une tendresse absolue. Sifflé à Cannes en 1967. Et puis, en fait, donc un flop total en sortie de salle. Puis un article de Bertrand Tavernier dans Positif. Bertrand Tavernier, qui est un peu le fils, quelque part, de Comencini. Et donc, le film ressort en 78. Et là, boum, bam, bing, grand succès. Voilà, drôle de truc. En tout cas, L'Incompris, c'est chouette. Hein.
Moi, je vais rebondir sur Une fille qui mène une vie de garçon, donc en 1965. Pourquoi ce film ? Bah, déjà, c'est un des trois films de Comencini qui est en pellicule 35 sur le festival. Donc, bien sûr, curieuse, je vais le voir. La copie est très belle, elle est projetée au Centre Rabelais. Donc, il est de 65 ce film, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui a trois amoureux. Donc on est sur quelque chose d'assez moderne en 1965. Ça pose question justement sur qu'est-ce que nous dit Comencini à ce moment-là. Il a souvent représenté les femmes à des endroits où on ne l'attendait pas dans ses films. Et là, pour le coup, je trouve ça assez somptueux. La seule chose, c'est que elle passe tout son temps entre ses trois garçons et elle a une demi-journée pour elle. Donc là, ça manque d'être moderne. Bref, ça c'est mon avis. Sinon, en 35, il y avait aussi L'Argent de la Vieille. Alors ça, c'était une vraie découverte. Et j'ai pu être en cabine pour le lancement. Et j'ai prévu de vous présenter, du coup, dans une petite capsule sonore de 2 minutes et demie, la voix de Jade Rieussé, qui est régisseuse technique et chargée des copies, et Rachid Tizi, qui est le projectionniste de la salle Berlioz. Tu nous l'envoies, Pascal ?
Avec plaisir.
Allez, c'est parti, on part en cabine.
Ouais, c'est Tamaza. Tamaza, c'est une boîte de distribution. D'habitude, on en a pas mal, mais là, cette année, on n'a que 4 35. Ah, 3 dans Comencini et une dans les Marocains. Ce soir, au Rabelais.
Ce matin, ouais, c'était une fille qui m'a dit garçon, ouais. C'est pâté. Mille mois, on l'a trouvé direct chez les producteurs. Et il n'y a qu'un enfant de Calabre où c'est la Cinecittà.
Mais les autres années, on avait quand même plus de 35, entre 10 et 15. Okay.
Le doux bruit.
On passait qui a volé un tram.
On a volé un tram.
Ah oui, on a volé un tram.
On a volé un tram, ça c'était marrant. Rachid, il me demande d'aller en salle pour écouter le son et je lui dis monte un peu. Et là, j'entends le son baisser. Et je dis non, monte pas, baisse. Et en fait, ça baisse jusqu'à plus de son.
Oui, oui, ça, oui.
Du coup, on arrive en cabine et c'était un amas de poussière qui était tombé sur le lecteur son.
Sur l'artère optique.
Oui, sur le lecteur optique. C'est parti pour l'heure 48.
Tu la connaissais, cette copie ?
Oui.
Elle m'a dit.
Oui, oui, c'est celle que j'ai passée il y a quelques années, la 307. Okay. Et puis, j'ai retrouvé mes propres marques dessus, donc c'est pour ça que je sais que c'est la mienne.
C'est quand ta première copie, en 35 ? T'es quoi ?
Ben, c'était avec René Picard au club.
Ok.
69, 70.
Et c'est du 35 ?
Oui. Non, avec René, j'ai commencé en 16 mm. Et après, on est passé en 35, un an et demi après, à Sainte-Bernadette, à côté du club, à côté du ranch et de la fac de Paul Valéry. Parce que là, par exemple, lui, ce film-là n'a jamais été numérisé. Donc, aussi bien dans un an ou deux, il sera numérisé, quoi. Donc, voilà, quoi.
Oui, il passera plus en copie,
Il sera plus en copie 35, quoi.
Ok. Et t'as ton kit qui te suit partout ?
Oui, oui, oui. Ça, c'est mes outils de travail. Ça, c'est mon viatique. Ma maîtreuse, j'ai ma petite loupe, j'ai tout. En fait, j'ai mon viatique, en fait. J'ai tous les outils pour pouvoir travailler tranquillement. Les crayons gras. Mes mires de cadrage, mes mires de réglage, mes mires...
C'est quoi tes mires de cadrage et de réglage ?
Je peux voir ?
C'est pour pouvoir régler. Quand on fait tourner, avec lesquelles on sort des boucles qui permettent de régler tous les formats, un 33, un 37, voilà. Ensuite, tu as les mires de définition, les mires de mise au point, et ensuite, tu as les mires de localisation pour le son, pour le lecteur son, pour voir qu'il est bien au milieu. Quoi.
Et sinon, tu fais les réglages quand même, quoi.
Oui, bien sûr.
Bah, c'est plus possible de passer un CAP de projectionniste aujourd'hui.
C'est plus possible.
Mais non, ça n'existe plus.
Ça, ouais. Bah, j'ai été examinateur pendant plus de 20 ans, hein, donc tu sais, c'est fini. Quoi.
Voilà Rachid hein, qui parle de son métier, un métier qui va disparaître au fur et à mesure que les bobines sont restaurées.
Bon, bah, la prise de son a été compliquée.
Oui,
bon, c'était pas prévu pour être diffusé au départ à la radio, mais c'était bon, tellement
c'est bien
précieux ce bruit que voilà.
Ben voilà, hein, Céline, on a fait le tour. J'espère qu'on
rapidement,
a donné.
Rapidement, on a fait le tour.
Il fallait une heure, on aurait pu, hein, mais ça aurait mérité plus. Mais on verra pour l'année prochaine, on fera plus peut-être. En tout cas, moi, j'ai adoré ce festival. J'espère que...
vous aurez envie d'y aller l'année prochaine.
Voilà, puis aller en salle, voir les films. Puis,
qui ont été primés.
Qui ont été primés.
Les longs, les courts et aussi d'aller voir sur Arte ces 5 films que l'on peut voir. Je ne vais pas faire de la pub pour Arte toute la journée, mais...
Non, mais il y a aussi la médiathèque.
À la médiathèque, vous pourrez retrouver...
L'espace Fellini.
C'est ça. Et il n'est pas exclu que le Ciné-Club projette un Comanchini en pellicule bientôt.
Eh ben voilà, du côté de la Brasserie du Dôme.
Par exemple.
Ah, on connaît ici. Ah, très bien. Bah écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, on vous laisse donc avec bah, la nuit. Elle est belle des fois la nuit.
J'espère. Et merci de nous avoir écoutés.
Voilà, à bientôt
sur, à bientôt sur au FM Cinémed et sur FM+.
Allez, ciao.
Ciao.